magazine de l'environnement. Ce matin, la terre, le miel, les fruits, un portrait en forme de corne d'abondance, celui de Maurice Chaudière.
Je travaille l'os aussi, l'os de vache.
On fait des sculptures.
Voilà, je suis sculpteur. C'est un bébé minotaure.
Et toujours à partir de matériaux naturels.
Oui.
Et ça, qu'est-ce que c'est, ces petits bols?
Ah, ben ça, c'est des terres crues. Donc, on pourra boire le thé tout à l'heure dedans, dans les terres crues. Le jour, j'ai servi du thé à des céramistes qui font des porcelaines, ou telle chose, très belle d'ailleurs. Puis, une fois qu'ils ont bu ça, je leur ai dit, ben, vous avez bu dans une terre crue. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Je dis, ben oui, vous avez bu dans une terre crue. Mais comment? C'est une terre crue. Et l'eau passe pas à travers?
Noir à l'extérieur, rouge sombre à l'intérieur. Et ça a l'air effectivement tout lisse.
Oui.
Comme s'il y avait de la céramique dessus.
Voilà, ben, c'est ciré uniquement. Évidemment, il ne faut pas la tremper dans l'eau bouillante et la laisser sur le feu. Encore qu'on a du mal à faire se retirer la cire de la terre. On a du mal à la déloger. Bon, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre pourquoi ça marche. C'est que la cire se dilate et se rétracte beaucoup avec les changements de température. Donc, si je veux la faire sortir de là en chauffant, elle va se dilater, elle va avoir du mal à sortir des pores dans lesquels elle s'est incrustée. Parce qu'elle a une viscosité. C'est pas comme l'eau. Donc voilà, c'est une forme relativement étanche. Quoi. Ah, magnifique, non?
Le coquillage?
Ouais, il est superbe. Si oui. Parce qu'on voit toutes les génératrices de la forme. Et donc, de ça, je vais faire un four solaire.
Un four solaire?
Oui, ben, vous allez en voir.
Avec un coquillage.
Oui. On verra, j'ai d'autres choses là. C'est des bronzes. Voilà. Vous voyez que c'est un coquillage et que c'est un coquillage. Je ne raconte pas les blagues.
Ah, attendez. En fait, vous avez reproduit la forme.
À peu près. Je me suis inspiré de...
En terre. Toujours en terre crue.
Un coquillage très, très commun qu'on appelle la bucarde épineuse. Et je l'ai fait, puis il y a une double paroi, il y a des isolants thermiques et tout ce qu'il faut, donc ça chauffe et on peut cuire du poisson dedans. Je fais mes confitures aussi.
Et cette cloche-là?
Ouais, c'est une ruche. Alors je m'amuse quelquefois à la décorer, elles ne sont pas toutes décorées. Hein. Mais quelquefois j'aime bien, je crois que l'homme d'instinct a besoin de donner du caractère à sa création. C'est une façon de la faire exister. Comme un enfant à la naissance, il a un caractère. Donc, voilà, il y a toujours un rapport étroit entre la création et la créature. Et je crois que l'artisan ou l'artiste, pour être sûr qu'il a fait quelque chose, il a besoin de donner des signes pour caractériser l'objet. Comme, oui.
Pourtant, déjà, la forme que vous donnez à vos ruches, c'est un caractère.
Oui, là, il y a un point de vue relativement technique. C'est que j'aime tout particulièrement la parabole. Pas au sens symbolique du terme, mais la forme géométrique. Parce qu'à parapole, elle peut être très serrée ou très ouverte. Alors je me suis dit, comme une ruche, un essaim, et a une forme plus ou moins ovoïde, ou hémisphérique, selon le support auquel il s'attache, au plafond auquel il s'attache, et il va devoir couver. Une ruche, ce que les gens oublient, c'est que la ruche, c'est une couveuse permanente. Donc il faut lui donner les meilleures conditions d'incubation. Et pour moi, la meilleure condition d'incubation, c'est une cloche. C'est comme le ventre d'une femme enceinte. C'est même le nombril.
Le nombril, c'est le tout petit trou qui est au milieu.
Oui. Et donc, les calories qui sont émises par les abeilles reviennent vers une situation focale, qui est celle de la parabole. Donc, mes formes, à l'origine, étaient paraboliques. Ça se voit pas. J'ai un peu rabaissé le fond pour pouvoir poser dessus un nourrisseur, éventuellement. Voilà. Alors la méthode est rudimentaire pour récolter. Quand je veux récolter, je vais le faire sur une autre, plus simple. Je mets la ruche à l'envers. Une fois que les abeilles ont tout construit, tout rempli de leur construction.
C'est-à-dire que de cloche, elle devient un pot de fleurs en quelque sorte.
Où vous voulez. Je mets une grille à rennes, je ne sais plus où elle est. Et puis je pose donc les abeilles. Les abeilles ont toujours des fondations au plafond. Nous, on a des fondations en bas, mais elles, c'est au plafond. Donc, la première des choses, c'est qu'elles vont souder les rayons à la cire, à la grille. Elles vont les souder. Mais le couvain est toujours dans une ruche en dessous du miel, ou en dessous où Quand la ruche est latérale, il y a le miel est à la périphérie, toujours. Alors quand la ruche est en forme de tronc ou de cloche, le miel est au-dessus. Et le couvain en bas. Il est couvé par le miel, puisque le miel est à la fois le combustible et l'accumulateur. Elle mange du miel, elle produit des calories qu'elle réinvestissent dans le miel qui n'est pas mangé. Et c'est ça le roulement, le cycle, oui. Et à ce moment-là, le couvain étant en haut, est exposé à la fois à la lumière, à la chaleur et au froid. Donc elles sont très pressées de mettre le miel au-dessus. Elles vont le mettre là où j'ai envie qu'elles le mettent. C'est-à-dire là. Dans la rousse, qui est un four solaire. Alors, d'abord, elles rentraient par en bas, là, elles vont rentrer par là. Elles vont faire tout le miel, là. Mais la reine ne peut pas venir, puisqu'il y a une grille à reine. Parce que sans quoi, elle aurait tendance à venir pondre dans des nouvelles cires. Donc, il n'y a que du miel. Et comme il n'y a que du miel, pas de cire gaufrée, aucun artifice, hein, il n'y a pas de bois, pas de cadre, il y a de la terre et de la cire d'abeille, et elles font du miel. Et quand tout est plein de miel, je retourne ça, je pose une vitre, et la simple élévation de la température grâce à l'effet de serre fait fuir les abeilles. Je peux même les faire fuir sans fumer.
Elles fuient par les petits trous que vous avez...
Oui, je mets une cale qui soulève un peu la vitre pour pas qu'elles cuisent. Et puis, voilà, elles sortent. Et donc, après, le miel coule. Et la cire finit par fondre. D'abord, la cire se ramollit, donc le miel coule. D'autant plus que les cellules sont inversées, parce qu'elles sont légèrement tournées vers le haut. Et là, elles sont tournées vers le bas. Donc, ça va couler. Et j'obtiens un miel très propre et une cire très propre, qui n'a jamais eu de contact avec du métal. Il n'y a pas eu de force centrifuge, il n'y a pas eu d'émulsion, il n'y a pas eu de... Voilà. J'ai un miel magnifique. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Les gens disent, oui, vous le chauffez, c'est pas bien. Bon, alors on n'est pas obligé, parce que l'idéal...
Ah, vous le chauffez, le soleil le chauffe.
Ben oui, l'exposer pour la récolte, c'est pour le fluidifier. C'est si on veut le mettre en bocaux, ou dans des pots en terre. Mais l'idéal, c'est de le manger en rayon. C'est là le luxe. C'est le meilleur miel, d'autant plus qu'il n'y a pas de cire gaufrée. Il y a une cire très fine que...
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cire gaufrée?
Ben parce qu'il n'y a rien du tout. La cire gaufrée, c'est les apiculteurs qui ont mis ça dans des cadres en bois pour favoriser l'extraction par force centrifuge, pour donner de la solidité au cadre. Ouais, c'est ça, la cire gaufrée. Seulement, elle est épaisse par rapport aux fines cloisons que fabriquent les abeilles. Puis en plus, actuellement, les cires gaufrées, elles peuvent ramasser toutes sortes de produits qu'on met pour tuer les varroas dans les ruches. Voilà. Alors vous allez en voir une plus grande. Donc ça, c'était une seule ruche que j'ai divisée. Donc la reine est là-bas, et là, il y a sa fille.
Là, on n'est plus du tout dans vos très belles ruches
en
terre, rondes.
Voilà, là, c'est vraiment la...
forme de ventre de femme, disiez-vous.
C'est la rationalité qui m'amène à ça. Moi, je navigue toujours entre les deux attitudes. C'est-à-dire celle qui est... fantasmatique ou onirique, j'en sais rien. Puis, quand même, je suis bien confronté avec la nécessité à notre époque. Et l'une des nécessités, c'est que tout d'un coup, il y a le varroa qui est arrivé en Europe. Bon, il a envahi l'Amérique et il en est partout dans le monde, je crois. Sauf en Australie.
Le varroa, c'est cette espèce de tique, la tique des abeilles.
Voilà, c'est une tique de l'abeille. C'est un acarien. Et notre abeille ne le connaît pas. Donc, elle n'a pas réagi, ou très mal.
Elle résiste pas.
Voilà. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'au lieu de traiter, il fallait favoriser l'émergence d'une abeille résistante. Puisqu'en principe, on considère qu'un parasite ne tue jamais son hôte, sans quoi il disparaît lui-même, quoi. Or, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des ruches, de plus en plus de gens qui constatent que certaines ruches résistent au varroa. Et donc, moi, et pour arriver à observer ça et à favoriser cette réaction, il faut surtout pas traiter. Quand on traite, d'ailleurs, c'est le varroa qui s'adapte au traitement. Et pendant ce temps-là, les abeilles subissent des doses de tous les poisons qu'on met pour tuer les varroas. Et même s'ils sont, soi-disant, inoffensifs pour l'homme, les abeilles sont, à mon avis, les défenses immunitaires de la ruche sont atténuées par tous ces traitements. Et donc, après, on voit des maladies secondaires qui arrivent, comme la loque, des tas de choses. Et alors, il y a des gens qui traitent avec des antibiotiques. Alors, vous voyez tout le circuit, quoi. Alors, il faut, à mon avis, essayer. Donc, j'ai mis au point une technique. J'ai simplement, si vous voulez, j'ai rien inventé. J'ai mis des cadres perpendiculaires au trou de vol. Normalement, dans une ruche, les cadres sont parallèles, dans la plupart des ruches.
C'est-à-dire, attendez, parce que là, on était dans des ruches en terre ronde et on arrive devant des sortes de tables métalliques dans lesquelles vous insérez des cadres. Oui. Là, on est complètement dans un autre univers.
Un autre univers.
Donc, et la transformation de l'habitat, c'est pour pouvoir traiter différemment.
Voilà. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la relation qu'il y a entre la forme et la fonction. Il faut d'abord bien déterminer la fonction. Si la fonction, c'est une fonction d'incubation, comme je l'évoquais pour la ruche en terre, la meilleure forme, c'est cette forme ventrue, et en forme de cloche. C'est la meilleure incubation.
C'est la cloche d'argile.
Oui. Là, le problème, c'est de tuer les varroas. Alors, justement, dans la cloche d'argile, j'aurais du mal à diviser la ruche ou à favoriser l'essaimage. Donc, j'ai fait une ruche qui me permet de diviser la ruche pour provoquer un essaimage. Et à ce moment-là, les varroas parasitent le couvain. Ils se reproduisent sur le couvain. Ils parasitent les abeilles, ils les sucent, ils piquent et ils sucent les molasses de l'abeille, mais ils ne se reproduisent que sur le couvain. Donc, si on arrête la ponte d'une reine à un moment, tous les varrois, tout le couvain va évoluer, et à un moment, il n'aura plus dans du couvain operculé, ils seront sur les abeilles. Si à ce moment-là, on a un seul cadre de couvain, qu'on prend d'une autre ruche, ou parce qu'il y a une jeune reine qui se met à pondre, et qu'on isole ce cadre, tous les varrois vont venir sur ce seul cadre. Et on va détruire ce cadre et libérer la reine. Donc voilà, c'est le fait que les cadres soient perpendiculaires au trou de vol, c'est comme une rivière, et je peux donc mettre des écluses. Donc l'écluse, c'est la grille à reine, ou c'est la cloison, c'est la séparation, etc. Et j'interviens dans ce flux vital de la ruche. Et ça me permet d'isoler la reine sur un seul cadre, et donc d'inciter. Quand un essaim vient de se déplacer, il n'a pas de couvain, il ne se déplace pas avec du couvain. Il y a une reine fécondée, et je l'isole à l'arrière d'une ruche, sur un seul cadre, et elle va pondre sur un seul cadre, autant que possible un cadre de mâle même. Et à ce moment-là, tous les varrois vont venir sur ce cadre. Et quand ce couvain est operculé, je détruis ce cadre, et je libère la reine. Et de l'autre côté, comme il y a une jeune reine qui est née, la jeune reine est près de la porte, et elle a aussi une grille à reine qui l'empêche d'aller pondre n'importe où. Elle pond sur un seul cadre, le premier. Et quand son couvain est operculé, je détruis, je libère la reine. Et donc, des deux côtés, j'ai purgé la ruche des varrois. Et il n'y a entré aucun produit chimique, ni d'origine végétale, ni chimique. Et moi, j'ai tout à fait passionné par ce que j'appelle le nid, c'est-à-dire la convergence d'une relation entre le centre et la périphérie, et qu'on retrouve partout dans le monde, hein, dans la structure d'un fruit, comme dans l'organisation d'un écosystème. Il y a toujours un lieu privilégié, un centre, pour la plante ou pour l'animal, il a un territoire. Et nous sommes comme ça, nous aussi, hein, ce qu'on a appelé métro-boulot-dodo, c'est ce rapport entre le centre et la périphérie, entre le travail et le nid, et l'endroit où on procrée, où on se trouve en repos. On a besoin du centre. Et pour les abeilles, du centre et de l'obscurité pour se recharger. Vous voyez, les abeilles ont une sorte de passion solaire, hein, elles marchent, mais elles ne peuvent vivre qu'à l'ombre. Et alors cette forme de nid, que connaît bien le potier, puisque dans le fond, il structure l'argile toujours de cette façon-là. Et cette ruche, c'est un nid, je vous dis que c'était un ventre, vous allez voir. Là, j'ai un nid, le nid dans le nid.
Oh ah,
j'ai une bête qui est rentrée. Ah, ça, c'était pas prévu. Il y a une bête qui est rentrée et qui a mangé les œufs. Ça doit être un serpent, parce que je vois pas qui pouvait rentrer là-dedans. C'est une forme quand même bien protégée.
En fait, vous aviez installé une cloche, une de vos ruches.
Chaque année, elles adoptent cette forme-là pour faire le nid. Chaque année. Alors, elles remplissent tout le fond. C'est de la maison en charbonnière. Elles remplissent tout le fond de mousse. Et puis après, au milieu de ça, elle fait son nid. Et là, j'ai vu, elle a pris les poils de ma chienne. Et il y avait une dizaine d'œufs. Et là, il n'y en a plus qu'un, donc c'est une bête qui est venue. Et je suppose que c'est un serpent, parce que je ne vois pas qui pourrait rentrer là-dedans. C'est le problème de la biodiversité, il y a tout. Hein.
Il y a quand même toujours le nid.
C'est dommage, parce que c'est très précieux pour moi qu'il y ait des mésanges ici, parce qu'elles mangent les chenilles sur les arbres, etc. C'est un peu mes origines. Hein. Moi, je suis né en Algérie. J'ai appris la poterie avec les Kabyles. Et j'ai fait très souvent ce signe-là. Vous voyez ?
Ah, mais vraiment comme des cornes de taureau et
oui,
puis deux yeux.
Oui, le taureau, c'était de mouflon.
Un mouflon ? Oui. Oui, parce que les cornes sont courbes.
Oui, oui. Et grandes. Et c'est pas par hasard, c'est que j'ai élevé un mouflon. Et donc, puis je suis moi-même un capricorne, alors peut-être qu'il y a une relation dans tout ça. Ouais, ça m'amuse de faire ce signe. Puis j'essaie de trouver la forme la plus rudimentaire qui puisse s'inscrire dans un volume courbe, etc. Voilà. Mais la recherche de signes est une chose complexe. Hein. Pourquoi et comment hein. Alors un beau jour, je me suis rendu compte que, enfant, je faisais ça parce que j'ai élevé un mouflon. Il n'avait plus pendant une semaine. J'ai sorti mon troupeau, et le troupeau est sorti en trombe, l'amandier était en fleurs, c'était le mois de mars, grand amandier. Et le mouflon a fait un saut, il a fait une chandelle. Les pattes repliées verticales comme un nid, les cornes en l'air, comme ça, 3-6 mètres de haut. Et il est redescendu là où il était tombé, au milieu du troupeau. Et moi, c'était le sacre du printemps, c'était... complètement émerveillé. Bon, alors ce mouflon, je l'aimais beaucoup, quoi. Mais je ne pouvais pas le toucher, c'était une bête sauvage. Et quand je l'approchais, il tapait du pied et présentait les cornes. Alors bon, je passais à côté et je ne l'affrontais pas. Jusqu'au jour où, distraitement, j'étais avec quelqu'un, j'ai voulu rentrer mon troupeau et lui s'est retourné sur le bord de la marche de la bergerie, qui est assez haute, 50 cm à peu près, et il me regardait. Et là, distraitement, tout en parlant à quelqu'un, j'ai tapé du pied, j'ai fait ce qu'il faisait quand il me provoquait, et j'ai levé les bras. Levant les bras, j'ai pris le signe des cornes, et il m'a frappé exactement comme il aurait frappé un autre mouflon, à l'endroit le plus dur de ma personne. Il m'aurait frappé là, je ne serais pas ici, j'aurais plus de dents, plus de nez, plus broyé. Il m'a frappé là, au front. Et il m'a fendu un petit peu, je suis tombé, je me suis abîmé une main, je me suis relevé, il est rentré, j'ai fermé la porte, on n'en a plus parlé. J'ai un tel goût de la nature que j'essaie de la préserver tout en m'en accommodant. C'est-à-dire que depuis la préhistoire, les hommes ils ont besoin de transformer la nature. Déjà, les peintures de Lascaux prouvent bien. Mais quand ils révèlent la nature, quand ils la figurent, ils la transforment. C'est-à-dire que les bisons, anatomiquement, ils sont très beaux, mais on a hypertrophié les bons morceaux, on a réduit la dimension des pattes. Et de même, dans les Vénus de la préhistoire, elles ont des fesses énormes, une tête comme un pois chiche. Vous ne croyez pas que les femmes étaient comme ça, hein. Mais ils ont exalté peut-être le plaisir, plus que l'apparence. Alors moi, je suis toujours dans ce rapport à la nature. Je l'aime, je m'en accommode, j'essaie de vivre avec, dangereusement, quelquefois, comme avec le mouflon. Mais en la transformant le moins possible, bien que j'ai le goût de la transformation. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des ruches en terre. Et tant qu'à faire, après avoir fait des ruches en terre cuite pendant assez longtemps, j'ai fait des ruches en terre crue.
Pourquoi ?
Parce que comme ça, on économise le coût de la cuisson. Parce que ce qui coûte en céramique, c'est la cuisson. Voilà, donc moi, j'essaie de prouver que je peux faire du miel rien qu'avec de la terre. Alors évidemment, quand je raconte ça... en Kabylie, où les gens savent faire de la poterie, où ils ont le goût du miel, et ils aiment les abeilles, alors, et ça les surprend beaucoup, et ça marche. Donc je rentre d'Algérie, là où j'ai fait des ruches en terre, j'ai fait un prototype, un moule, et donc il y aura une petite série qui va... J'ai fait ça dans le Chiapas, avec les femmes Tochil, là-bas, à Matenango, c'est un pays de potières, et donc, au bout de quelques jours, quand je suis parti, il y avait des abeilles dans des ruches en terre. Donc elles faisaient des petites poteries qu'elles vendaient difficilement sur le bord des routes, et tout d'un coup, ils avaient des commandes de ruches en terre. Donc j'essaie de... C'est une double préoccupation, c'est-à-dire protéger la nature, mais c'est d'une façon m'intéresser au sort de notre humanité. Enfin, c'est ambitieux ce que je dis. Mais si on arrive à produire des choses de qualité simplement grâce à un regard particulier sur la nature, alors ça devient intéressant. Pour moi, la nature, c'est la nature qui est intelligente. Et l'homme, son intelligence, parce qu'il est nature lui aussi, n'est là que pour essayer de sonder cette chose qui le dépasse. Et donc il en témoigne à travers l'art, et il transforme, il sophistique, et quelquefois à l'extrême, au point que la nature n'est plus qu'un prétexte. On n'a plus que le simulacre de la vérité, et plus la vérité de la nature.
Toute la difficulté, c'est d'être du côté du jeu, et pas du côté du simulacre.
Oui, c'est ça. Et Platon disait ça. Il disait qu'il ne fallait pas préférer le simulacre à la vérité. Or, toute la société productiviste a fondé toute son économie sur le simulacre. C'est une sorte d'inflation perpétuelle. On a le prototype et puis on le multiplie jusqu'au stéréotype. le stéréotype, il coûte pas cher, donc c'est lui qui permet de faire du fric.
Oui, mais c'est à dessein que j'ai employé le mot « je », parce que
J-E-U,
oui, puisque l'inverse du simulacre, ça pourrait être une sorte de purisme exacerbé, c'est pas ça non plus. Vous n'êtes pas dans cette recherche de pureté un peu froide.
Je suis pas un intégriste de la nature. Au contraire, je vis avec, je vois bien toutes les aberrations, la nature a des mutations, elle a des tas de choses. Voilà, mais l'homme il s'intéresse tout particulièrement aux mutations. Dès qu'il voit que la nature se transforme d'elle-même, il cultive la mutation.
Ah oui?
C'est comme ça qu'il est arrivé à toutes sortes d'espèces, végétales ou autres. Alors, hybridation, transformation, il trafique, quoi. Il aime la nature, mais il aime bien la transformer. Oui.
Mais ça, vous l'interdisez?
Pas tout à fait, puisque je greffe. Je suis un greffeur et on va voir toutes sortes de greffes. Donc, quand je greffe, d'une certaine façon, je perturbe. Mais qu'est-ce que je fais quand je greffe? C'est tout à fait symbolique, la greffe. Quand je greffe, j'impose la culture à la nature. Le greffon, il est d'une plante cultivée, et je greffe sur une espèce sauvage. Et autant que possible, une espèce qui pousse dans son milieu. C'est-à-dire que je n'arrache pas. C'est comme ça que j'ai fait des forêts fruitières à partir de garrigues. Tout ce qui pousse, je le greffe. Et tout d'un coup, on a des fruits magnifiques. Vous vous rendez compte qu'on peut avoir des pêches, même très belles, sur une prunelle. La prunelle fait des petits fruits acerbes, épineux, et là-dessus, on peut avoir des pêches. Oui, on peut avoir des coins assez considérables sur l'aubépine qui fait un tout petit fruit. En tout cas, on greffe couramment le poirier sur l'aubépine, etc. Voilà, donc c'est la même attitude finalement. Je m'adresse à la nature sauvage et comme moi je ne suis pas tout à fait sauvage et que je préfère manger des abricots aux prunelles, eh ben, je greffe les pruneliers en abricotiers. Mais ce que faisant, j'aide les autres à vivre puisque nous sommes tous dans ce processus de culture. Et là, c'est carrément une zone qui était abandonnée presque depuis la préhistoire, il y avait des dolmens, tout ça, et qui était gérée par l'ONF. Mais c'est tellement caillouteux, tellement qu'ils ne peuvent pas y planter des pins comme on fait partout. Et donc, ils m'ont dit un jour, si vous voulez greffer, vous faites ce que vous voulez. J'ai commencé, et quand ils ont vu le résultat, ils ont fait un dossier très bien fait, et qu'eux, ils savent faire. Hein, et on a obtenu le fonds de gestion de l'espace rural, une subvention importante qui a été répartie sur la commune, l'ONF et l'association que je représentais. Et donc, j'ai eu une expérience de greffage comme ça sur 4 hectares de terre.
Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre cette forêt fruitière et ce que vous nous avez montré jusqu'à présent? Parce qu'on a quand même vu déjà beaucoup de choses.
Oui, mais ici, on est dans un milieu relativement cultivé. Vous voyez, on est entouré de vignes, tout ça. Là-bas, c'est un endroit qui a très peu varié depuis la préhistoire. Et donc, j'ai trouvé des plantes qui sont là depuis des millénaires, qui sont vraiment dans leur écosystème. Et j'ai prouvé qu'on pouvait avoir des pistaches, par exemple, sur le térébinthe, je sais pas, des poires sur l'aubépine, des nèfles sur l'aubépine, enfin, bon, beaucoup de choses, quoi. J'ai greffé la mélanchier du Canada qui fait des fruits délicieux sur la mélanchier ovalis qui poussait. Voilà, jusqu'au jour où quelqu'un s'est mis à arracher les greffes. Oui, ça a été un truc terrible, ça m'a enlevé l'envie de poursuivre, ça a duré pendant plusieurs années. Et voilà, quelqu'un qui trouve que je perturbe le milieu en greffant. Et qui se pose sûrement en écolo, mais enfin je pense que c'est un chasseur. Et que c'est, il se trouve qu'à un moment, il y a eu un moment critique, effectivement, et symptomatique. C'est un moment, comme je fais des conférences un peu partout, j'ai fait une conférence à Manresa, en Espagne, qui est un institut d'agroécologie. Et j'ai parlé de la forêt fruitière, et j'ai montré des photos, des diapos. Et ils m'ont dit, on aimerait voir ça. Je dis, il faut venir, on peut pas le déplacer. Et ils sont venus, avec un quart de 30 personnes, un dimanche matin, et on s'est acheminé vers ce truc-là. Et quand on est arrivé sur les lieux, on a croisé un chasseur qui descendait avec un chien, avec une petite clochette. Alors je lui ai dit, nous on n'a pas de clochette, hein. J'avais un peu peur pour l'air. Il m'a dit, mais chacun prend ses risques. Et il est descendu. Et en bas, sur la route, tous les chasseurs étaient arrivés, c'était un dimanche matin. Et il a dû leur dire, on ne peut pas tirer sanglier quand il y a 30 Espagnols dans la garrigue. Et alors j'en ai entendu de tous les noms, ce con d'écolo, qu'est-ce qu'ils nous emmerdent. Et puis furieux, furieux. Et ça, et toute une battue qui a été annulée. Alors, vous savez, une battue, ça s'organise. Alors, évidemment, je suis un peu une bête noire pour ces gens-là. Il n'y a pas que les sangliers qui sont des bêtes noires. Voilà. Et voilà. Donc, il s'est donné l'autorité de tout arracher. mais pas des greffes de 2 cm, hein, des trucs d'un mètre cinquante. Et...
Oui, parce que là, on parle de, ouais. du moment de la greffe, mais en fait, ensuite, ces arbres, ils vivent. Ils vivent leur vie d'arbre.
Un térébinthe, par exemple, qui a un tronc de 5 cm de diamètre, il a au moins 50 ans, ou peut-être plus. Et quand on greffe, dans les 3 ans, il a recouvré son volume végétal. Et en plus, il fait des fruits, quoi. Voilà, donc oui, on peut partout transformer et puis se réjouir. Hein, parce qu'on peut transformer sur le plan de la fructification, mais aussi de l'esthétisme. On peut mettre des arbres avec un corps retombant quand ils avaient un corps ascendant, etc. Mettre des érables pourpres sur des érables verts. Mais moi, je fais pas tout ça. Je trouve ça perturbé. Pour le plaisir de perturber, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de nourrir l'humanité, finalement. Enfin, moi, par gourmandise, d'abord. Mais ensuite, je suis comme tout le monde. Tout le monde est gourmand. Hein. Donc, voilà. On a ça en commun, hein. C'est que ce que je dis souvent, c'est que vous voyez, la chose qui est la mieux partagée, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est la volupté. Les riches, dans leur château, ils n'ont pas plus de plaisir à faire l'amour que les pauvres dans leur gourbi. La volupté, c'est ce qu'on a en partage. On a un corps qui a du sens, et ce sens ne demande qu'à s'exprimer. Et donc, voilà. Donc, moi, en flattant mon propre plaisir, je suis sûr que j'atteins les autres, parce qu'ils ont les mêmes plaisirs. Non ? Je crois. C'est pas un phénomène.
Le pain à lever au soleil ?
Ah, je fais le pain, vous savez que je suis né en Algérie, donc j'ai appris la poterie avec les femmes kabyles, j'ai appris aussi à manger le pain. Quand j'étais tout petit, je trouvais que le pain que j'allais manger chez Katidja était meilleur que celui que j'allais acheter à la boulangerie. C'était le pain de semoule qu'elle cuisait sur un tagine en terre, tout ça. Et donc, j'ai perçu très tôt cette sorte d'élégance dans la pauvreté. Alors, je ne veux pas faire du paupérisme, mais je trouve que ça évident. Est-ce que je vous raconte de la nature ? C'est pareil, la qualité que je trouve dans cette relation entre la bête et ce qu'elle mange, tout ça. Cet ordre antérieur à la culture, c'est une source de qualité extraordinaire. Quoi.
Qu'est-ce que c'est, la relation entre la bête et ce qu'elle mange ?
Eh bien, depuis que le monde est monde, la terre tourne comme ça. Le sol produit un certain type de végétation qui est consommé par un certain nombre d'insectes, et puis ces insectes par des oiseaux ou par des reptiles. Et puis, finalement, il y a d'autres prédateurs qui viennent manger tout ça. Et au terme de la chaîne, il y a l'homme. Et moi, je trouve que dans la cuisine traditionnelle d'autrefois, il y a cet ordre, on retrouve cet ordre-là. C'est-à-dire, par exemple, le cochon, qui est un animal qui a un groin pour retourner la terre, il va chercher les truffes, entre autres, les topinambours aussi, et les patates de toutes sortes, hein, les muscaris, qu'il aime beaucoup. Il nous enseigne donc que le petit bulbe de muscari est bon, effectivement, les Chinois le recherchent. Bref, il mange des tas de choses. Moi, j'aime beaucoup observer les pâtures, comme ça, des bêtes, voir ce qu'elles mangent. Et il y a une relation entre ce qu'elles mangent et leur goût. Parce que ce qui est flagrant à notre époque, si vous achetez un œuf qui vient d'une usine à poules, elles sont enlevées à 4 ou 5 sur un mètre carré, sur des grillages, les œufs sont propres, ils ont tout à fait l'apparence d'un œuf. Mais entre cet œuf et celui d'une poule qui court dans les champs, il n'y a pas grand-chose de commun. Hein. Moi, au goût, je le reconnais à distance. Même à travers une pâtisserie, je reconnais le goût des œufs d'usine. Donc la bête, elle est faite de ce qu'elle mange, et la saveur de sa viande a une relation avec ce qu'elle a mangé, ça c'est évident. Hein. Et donc moi j'essaie en cuisine de flatter cette relation entre ce que la bête a mangé, et puis ce qu'elle est, sa saveur. Et donc voilà, un pigeon qui a été nourri au petit pois, au févrol, il n'aura pas le même goût qu'un pigeon d'élevage qui a été élevé au granulé ou avec autre chose. Quoi.
Mais là ce que vous dites, c'est que vous l'entourerez à table, voilà. De févrole.
C'est pour ça que j'ai dit que la cuisine, c'est le reste d'une religion totémique où on aime la bête jusqu'à la manger. On aime. Vous savez, je crois que c'est Jean Grenier qui dit ça. Moi, je sais ce que l'homme dit quand il dit qu'il aime le mouton. Voilà, on l'aime, il est beau, parce que Marie-Antoinette aimait beaucoup les moutons, mais je ne sais pas si elle aimait les manger, mais en tout cas, c'est sûr qu'aimer, c'est ça. Hein. C'est la globalisation d'un attrait ou d'un désir qui va jusque-là. Moi, je suis comme ça. J'aime beaucoup les moutons. Je suis capable aussi de les tuer et de les manger. Et...
Avec ce qu'eux ont aimé manger.
Oui, précisément. Ouais. Dans le couscous, le mouton, il aime le blé, il aime les pois chiches, Il aime les navets, donc si on n'a que ça déjà pour faire un couscous, on peut faire un très bon couscous. Il aime la vigne, donc si on a des raisins secs dans les grains, ça va être très très bien. Mais oui, mais on le retrouve dans les grandes traditions de la cuisine. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Alors tout à l'heure, vous me disiez, oui, mais tu n'as jamais vu un canard manger des navets. Pourtant, le canard aux navets, c'est connu. Eh bien, ils adorent les feuilles. On ne peut pas élever un canard dans un jardin où il y a des navets qui poussent, parce qu'ils rasent tout, la feuille. Donc, ce qui sera intéressant, c'est peut-être de cuisiner le canard avec la feuille du navet. Ou avec le navet. C'est un peu le même goût, d'ailleurs. Voilà, bon, il y a cette affinité. Moi, je l'observe et elle me réjouit. Ça, la grande cuisine aussi m'intéresse. C'est une forme de divagation poétique que je trouve tout à fait intéressante. Mais je trouve que c'est aller chercher bien loin ce qu'on a sur place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver dans mon environnement immédiat toutes les sources d'une certaine harmonie, un plaisir d'ailleurs. J'adore manger des escargots et je vais les préparer parce qu'ils aiment manger. Mais je trouve que les escargots aiment beaucoup les poivrons, donc même la tomate aussi. Et donc je vais faire une sauce. Mais je n'ai rien inventé parce qu'en Algérie, on faisait des escargots comme ça. Mais les escargots aiment beaucoup les fraises et je médite de faire des escargots avec une sauce aux fraises. Voilà. Donc, cette observation m'amène à des extrapolations et à de la divagation, on n'en sait rien, mais c'est, voilà, ça m'intéresse.
En général, quand j'ai des visites, je rate la cuisine, il faut se méfier.
Vous aimez trop raconter?
Ben non, je suis distrait, je perds le fil conducteur. Là. Il faut aussi une unité, une cohérence dans la cuisine.
Alors justement, Maurice Chaudière, cette idée de cohérence, quand vous vous mettez à griffer du coin sur de l'aubépine, de la pêche sur de la prunelle,
oui.
Est-ce qu'on est encore dans la cohérence?
Vous avez une bonne mémoire, là, vous retenez bien. Vous n'êtes pas trompé des porte-greffes en tout cas. Eh bien, oui, parce que ben, moi je suis obligé de considérer que je suis cultivé, pas plus qu'un autre, mais je ne suis pas tout à fait sauvage, bien que les gens trouvent que j'ai des instincts assez sauvages, mais donc je préfère fruits cultivés aux fruits sauvages. Et c'est pour ça que je greffe. Et tout autour chez moi, presque tout ce qu'on va voir, c'est des plantes sauvages qui étaient là. Il y a une profusion de poiriers, de pruniers surtout, qui est le prunier de Damas qui est subspontané et qui envahit tout parce qu'il drageonne énormément. Donc c'est plus difficile d'arracher un drageon que de le greffer. Ça me prend beaucoup moins d'énergie. Et le résultat est magnifique. C'est-à-dire que là-dessus, je vais avoir toutes sortes de fruits. Vous allez les voir, des pêches, des prunes. Et donc, je m'entoure de... J'aime, si vous voulez, l'abondance de la nature. J'aime la voir proliférer. Puis c'est... Alors, évidemment, quand on a... C'est très facile d'arriver à l'abondance. Mais elle pose le problème du partage. Ou bien on laisse pourrir tout, parce qu'on en a trop. Ou bien il faut essayer de stocker l'énergie. En somme, c'est la chose la plus difficile qui soit. Et donc, je fais des fours solaires, et donc je fais des confitures solaires. Donc, je fais cuire les... on va en voir, on pourra peut-être y goûter du bout du doigt, parce qu'elle ne sera pas tout à fait cuite. Et d'ailleurs, j'ai commencé une confiture de fraises, hier seulement. Donc, elle ne sera pas cuite, mais elle aura déjà pris un certain goût, en s'échauffant, quoi.
Combien de temps est-ce qu'elle va...
En deux, trois jours, elle sera cuite. Ça dépend de l'épaisseur du produit à cuire. Vous savez, dans les techniques solaires... Le rendement du four solaire est fonction de la surface exposée. S'il y a une très grande surface, ça marche très bien. Et donc, c'est pas l'épaisseur du produit, c'est sa surface, puisque ça ne chauffe que par-dessus. Donc, si j'ai très peu, si j'ai juste un centimètre de confiture bien étalée, ça va cuire en une après-midi. Et si j'ai 5 ou 6 centimètres, il n'y a que la surface qui va cuire, donc je suis obligé de remuer, d'enfoncer ce qui est cuit. Donc, ça prend plusieurs jours, mais quand tout est à la même consistance, c'est cuit. Et ça se conserve mieux qu'une confiture cuite au feu. Et en plus, alors là c'est comme les ruches entières, en plus je peux faire des confitures sans sucre et sans feu, même pas une allumette. Enfin, s'il a quand même fallu faire une vitre. La vitre, ça je ne sais pas la faire. Donc là c'est une concession au système industriel, si vous voulez. Et ça, mis à part, on peut faire plein de choses, quoi. Avec de la terre, une vitre.
Et du soleil.
Et du soleil.
Vous nous avez pas parlé de l'eau encore?
Ah oui. Eh bien, l'eau, j'essaie de la récupérer comme je peux. J'aime bien utiliser l'eau de pluie aussi.
Mais bon, je suis pas très organisé sur ce plan-là. J'utilise l'eau du robinet, quoi.
Vous êtes vraiment du côté de la terre et du feu.
Oui, oui, oui. Et donc, justement, quand on fait les ruches, c'est incroyable, parce qu'avec la terre, je peux la puiser dans mon environnement. Je vais la casser pour la déliter, parce qu'au début, la terre, c'est une roche. Elle est compacte. Il faut la déliter pour bien l'exposer au soleil, bien la sécher. Quand elle est bien sèche, on lui donne à boire. Et elle gonfle. Et on peut faire ce qu'on appelle un lait d'argile, qu'on va tamiser ensuite pour enlever les impuretés et qu'on va concentrer. Puis un beau jour, cette argile va passer de l'état pâteux visqueux à la pâte. Et quand le potier en est à cette phase, la pâte, finalement, c'est ce qui ressemble à la chair. Auparavant, on patauge dans la terre, ça colle, c'est un peu comme le gosse qui joue avec ses excréments, mais et puis il se détache à un moment de tout ça. Et au moment où on a la pâte en main, ben, on l'a attiédie, elle a une certaine élasticité, elle est très très semblable à la chair. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que le désir s'en empare et va l'engrosser. Une poterie, c'est ça. C'est toujours une matière engrossée par l'imagination. Et donc, pour ça, on a des techniques, c'est-à-dire le respect à la fois de la pesanteur et de la force centrifuge. C'est ça, une poterie. C'est une espèce de diagramme ou de courbe qu'on arrive à réaliser entre deux forces d'écrasement ou de destruction, la pesanteur et la force centrifuge. Et avec ces deux choses-là, on construit. C'est extraordinaire, hein, la poterie, quand on y réfléchit. Mais ça nous ramène finalement à la grande rotation de la Terre et de tout le reste. Hein. Voilà, donc moi j'essaie d'en revenir toujours à ce qu'il y a de plus élémentaire. Les éléments, j'aime les éléments. Le feu, l'eau, comme vous le disiez, et la Terre. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Parce qu'avec ça, on fait le sol, on fait les murs, on fait les tuiles. On peut tout faire avec la Terre, l'eau et le soleil. Et des tas de maisons en terre crue. Et puis avec le feu qui existe, donc avec le bois, on peut cuire des tuiles, parce qu'on ne pourrait pas faire des tuiles en terre crue. Donc c'est la seule partie qui pourrait être cuite, ou qui était cuite dans les maisons en terre. Ou alors on a un toit en chaume, si vous voulez. Voilà, mais tout ça m'intéresse. Moi je voudrais bien, pour la fin de ma vie, me faire une petite baraque, une hutte en roseau et torchis, avec la bouse de vache et de la terre, un toit en chaume. J'aimerais bien finir comme ça. C'est vrai, avec les objets dont je me sers habituellement. Vous voyez, tiens, vous avez une petite collection, là. Voilà, je peux me faire des fourchettes en bambou. Et là, j'ai un couteau-cuillère. C'est-à-dire, je peux prendre, avec le dos, je peux
taper. En bambou, toujours.
En bambou. Je peux couper. Et voilà. Et je peux me faire aussi de quoi manger des spaghettis avec les bambous, avec une graine. Parce que je ne sais pas me servir des baguettes, comme font les Japonais, je trouve.
Donc en fait, vous avez inventé une double baguette.
Je ne crois pas que j'ai inventé.
Vous avez fendu un bambou, oui. Et vous avez mis une graine au milieu pour empêcher les morceaux de...
Non, c'est comme un œil de cigogne, c'est un bec d'échassier. Voilà, on peut prendre, on peut faire beaucoup de choses.
C'est très beau.
Ça marche. Voilà ma batterie de cuisine, mon argenterie. J'aimerais bien vivre comme ça, mais c'est pas de.
Vous dites j'aimerais bien, c'est pas facile.
C'est pas un défi, mais c'est. C'est pas pourquoi je suis comme ça.
C'est une quête.
Oui. Pourquoi j'aime être si près des rudiments, de la technique et en même temps, la nature, elle n'est pas rudimentaire, c'est le contraire. C'est la profusion, c'est incroyable parce que comment se déroule une feuille, comment elle se soutient, comment elle se. Détruit, tout ça, ça m'énerveille, quoi. Donc, j'interviens, parce que, en même temps, les gens vous disent, mais alors pourquoi tu grèves? Tu es fauteur de troubles, c'est vrai. C'est vrai. Et je peux pas m'empêcher d'être un homme, voilà. Je suis pas une bête. Je voudrais bien, mais je ne suis pas. Donc, tout d'un coup, j'ai réalisé que le greffage, dans le fond, pour moi, comme je voyage beaucoup, c'est une manière de clonage du souvenir.
Vous rapportez.
Voilà, par exemple, je vais vous montrer une chose magnifique. Elle est en fleur juste aujourd'hui pour votre venue. C'est incroyable.
Ouais.
J'étais en Inde, parce que Dominique Guillet, qui a créé Cocopelli, m'a invité en Inde, j'ai passé un mois. J'ai greffé, j'ai fait des ruches en terre, je fais ce que je fais partout. En terre, des ressources que je découvrais, hein, parce que bon, il y a des choses que je reconnaissais, mais beaucoup d'espèces qui ne vivent que là-bas. Et à un moment, j'étais derrière lui en moto, et à un carrefour, devant un feu, probablement, s'est arrêté, et j'ai vu un arbre qui faisait des fleurs de jasmin. je me suis dit, c'est un jasmin, mais il n'a pas la forme de liane de tous les jasmins que je connaissais. Et puis, j'ai pas eu le temps de m'arrêter, et la moto est passée. Et je suis resté, moi j'ai des flashs comme ça, des trucs, et donc j'ai gardé ça en tête. Je savais pas que j'avais gardé ça en tête. Mais un beau jour, j'étais au Canada, au Québec, et je faisais un cours sur le greffage ou sur l'apiculture. Et entre deux groupes, il y a eu une pause, et ils avaient une serre tropicale, chauffée évidemment. Et je me suis aventuré là, et au parfum, je suis arrivé à un jasmin, et c'était le jasmin que j'avais vu en Inde. Un arbre, avec des fleurs magnifiques. Oh, j'ai eu une émotion incroyable. Alors j'ai vu le directeur, j'ai dit, vous croyez que je peux prendre un petit rameau? Il m'a dit, mais bien sûr, ce que vous voulez. J'ai pris trois petits bouts comme ça, et arrivé ici, j'ai fait des boutures. Et sur les trois, il y en a un qui a fait des racines. Et maintenant, il est assez malingre, mais il m'a fait une fleur. Mais il est minuscule. Et à côté, j'ai ramené de la Ciotat, par exemple, un jasmin de Turquie, qui est d'une vigueur. Alors, n'importe quel morceau qu'on plante, ça pousse, ça fait des racines tout de suite, et il fait des lianes, vous allez voir. Hein. Ben, la fleur est beaucoup moins distinguée que l'autre. Mais je vais greffer, donc j'apporte la sève sauvage, l'énergie à une plante qui en a peu. Une plante qui a été peut-être cultivée. C'est en ce sens que je dis que la culture qui me séduit est quelquefois une altération ou une transformation de la nature. Mais pour la conforter, eh ben, il faut revenir aux sources. Par exemple, vous avez des roses magnifiques ou pleines de pétales. Il n'y a plus une seule étamine. C'est-à-dire que toutes les étamines ont été transformées en pétales. Donc elle ne peut pas se reproduire de façon... sexuée. Et donc, pour l'arbre Dieu, comment on fait? Donc, on la greffe. Et autant que possible, on la greffe sur les glandines, c'est-à-dire le rosier sauvage qui, lui, se ressème très bien. Lui, il fait beaucoup de graines et toutes les graines germent. Donc voilà, c'est sans arrêt ce retour à la racine sauvage.
Oui, mais rose sur rose, jasmin sur jasmin.
Ah oui.
Tout à l'heure, vous parliez de coin sur aubépine.
Oui, quelquefois, je fais varier un peu les espèces. Mais je fais quelque chose de beaucoup plus difficile. Quelquefois, je greffe dans des genres différents.
Pourquoi ?
Famille, genre, espèce. Donc au niveau de l'espèce, ça va. Il y a des espèces qui ne se ressemblent pas beaucoup, mais on peut facilement greffer l'une sur l'autre. Mais entre genres différents, ça devient très rare. Mais il y a quelquefois des surprises. Et vous allez voir comme ça une aubergine qui est greffée sur un tabac. Et oui, des choses comme ça. Ah oui, mais vous savez, vous le saviez peut-être, mais c'est la Cité des Sciences, ils avaient exposé tous mes travaux. Ils avaient baptisé ça greffe insolite. Ça a duré presque un an, de mai à décembre. Et donc, je ne leur ai fait que des coups tordus, comme on dit. C'est-à-dire des choses invraisemblables. Donc, il y avait le châtaignier sur le chêne, le pistachier sur le lentisque, des choses réputées infaisables, même, et qui sont faisables. Et puis, beaucoup de greffes herbacées, comme ça, de plantes, d'aubergines sur tabac, ou plein de choses comme ça. On peut greffer l'estragon sur l'armoise, par exemple. Alors, l'armoise envahit tout, mais sur la racine d'armoise, on peut greffer l'estragon.
On peut.
Oui.
Mais pourquoi le faire?
Ah, alors là, oui. Eh bien, pourquoi le faire? Mais quelquefois, ça a des raisons économiques extraordinaires. C'est pas ce que j'ai cherché, mais je constate. C'est le résultat. Par exemple, ce tabac que je greffe, c'est le Nicotiana glauca, qui vient du Pérou. On appelle le tabac du Pérou aussi. Il a colonisé carrément la Méditerranée, il y en a partout, mais près de la mer, puisque lui ne répugne pas au terrain salé et au sec. Il fait une racine épaisse comme un navet, si vous voulez. Il est vivace, et il peut atteindre 4 mètres de haut, et il fait des touffes. Et là-dessus, tout d'un coup, je trouve plein de choses à greffer. Pas seulement l'aubergine, mais la tomate, le siphomandra, le solanum de Quito, enfin des fruits délicieux, des fruits légumes, des fruits sucrés. Je me suis dit, un jour, je vais me faire un arbre à ratatouille. Je vais mettre sur le même sauver le poivron, la tomate. Alors, j'ai réussi ça. Hein.
L'aubergine.
L'oignon. J'ai pas réussi. Non, l'oignon, là. Non, l'oignon, là, ça marchera pas. Mais j'ai pas réussi le poivron. Mais par contre, j'ai réussi le poivron sur la douce amère. Et là, ça marche bien. Donc, voilà. Alors, si je trouve dans mon environnement la plante sauvage qui est là dans son écosystème depuis des millénaires, et que là-dessus, je peux avoir les fruits qui correspondent à ma culture, alors j'ai simplifié plein de choses, tout un processus d'agriculture, si vous voulez.
Cette fois-ci, il va être cuit.
Et de là, on va à la transgenèse, Maurice Chaudière?
Ah, ben non, pas du tout. Beaucoup de gens me disent, mais alors tu trafiques les gènes, non.
Non, parce que la plante au-dessus de la greffe, c'est une vraie tomate, par exemple, et en dessous, c'est une vraie pomme de terre. Je vais avoir la tomate sur la pomme de terre. Et je vais avoir, si je sème les graines de cette tomate, j'aurai des vraies tomates. Ce n'est pas une hybridation. Et ce qui est étonnant, c'est que le fruit de la pomme de terre est toxique. Il y a de la solanine qui passe. Mais avec la greffe, non. La tomate, elle n'est pas toxique. Et pourtant, c'est le fruit de la plante, dont les racines sont une pomme de terre. Donc voilà, il y a des miracles comme ça. La greffe est une espèce de barrage à certaines substances. Et cependant, il y en a qui passent. Bon, il y a bien la sève qui passe, mais j'ai eu une expérience assez extraordinaire. J'ai greffé un poirier épineux, on appelle ça le poirier à feuilles d'amandier, qui pousse ici, il y en a au Larzac, il y en a un peu partout. Il peut être rester rabougri, minuscule, ou devenir énorme, selon son environnement. Et en général, les gens disent, enfin les paysans, on ne greffe pas le pommier sur le poirier. Mais il y avait sûrement des raisons pour ça. Mais moi, comme je dois avoir un esprit de contradiction, bon, je suis curieux, donc j'ai greffé le pommier sur ce poirier. La greffe a pris, ça a poussé de quelques centimètres, une trentaine, 40 centimètres, jamais plus. J'ai fait un bonsaï. Mais la grosse surprise, c'est qu'il m'a fait des fruits aussi beaux que sur l'arbre où j'ai pris le greffon. De très belles pommes. Mais où il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que l'arbre sur lequel j'ai pris le greffon donne des fruits qui sont tous parasités par le Carpocaps. Tous les fruits tombent. Et greffé sur ce poirier, aucun fruit n'a été touché. Il y en a eu 6 superbes. Or, j'ai des diapos, là, je montre ça dans mes exposés sur le greffage. Donc voilà, tout d'un coup, une manière de lutter contre les parasites par la greffe. En choisissant le porte-greffe. Parce que, effectivement, ce porte-greffe qui fait un petit fruit acerbe très désagréable qu'on ne peut pas manger, il est dur comme du bois, mais le Carpocaps ne s'y intéresse pas. Il y a des substances qui dissuadent. Donc, il y a certainement des substances qui passent dans le fruit, malgré la greffe, puisque le Carpocarp n'a pas piqué ce fruit. Voilà, donc il y a des petites trouvailles comme ça que je fais à force d'expérience.
Oui, mais ce qui est vraiment très intéressant dans ce que vous décrivez, Maurice Chaudière, c'est que ce retour aux sources ne reste jamais dans le rudiment. C'est-à-dire que de là, vous repartez et vous allez finalement très loin. C'est à dessein que je vous ai parlé de transgenèse. C'est pour montrer que ça peut devenir quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Mais vous n'accepteriez pas, me semble-t-il, n'importe quel type de transformation.
Non, je n'aime pas qu'on trafique les gènes, justement. Parce que je pense que c'est une manière de planifier. Dans la mesure où on va avoir une plante, un blé ou je ne sais quoi, qui va avoir des rendements extraordinaires parce qu'on résiste à tel insecte, tout le monde va vouloir ça, on va augmenter. Et ce que faisant, on va éliminer des tas d'autres solutions. On va éliminer la biodiversité. Alors rien qu'à ce titre, moi, je trouve que je ne suis pas d'accord. Ça me plaît pas du tout, ça me paraît grave. Oui. Ça me paraît grave d'altérer comme ça cet ordre qui a mis des millénaires et des millénaires à s'accomplir. Et nous, hommes, tout d'un coup, on dit non, nous on change la donne. Et ça me paraît très grave.
C'est-à-dire, on peut changer, mais on peut pas, imposer.
On peut pas faire n'importe quoi. Je crois que c'est Camus qui dit, il y a des limites. On peut les transgresser, mais il y a des limites.
Et comment est-ce qu'on les repère, ces limites?
Ah, eh bien, je crois qu'on a toutes sortes d'intuitions ou d'émotions. Et très souvent, l'art y est en question. On perçoit une certaine beauté dans un certain ordre. Et quand on a altéré cet ordre, il faut, peut-être beaucoup d'efforts pour retrouver de la beauté dans ce qu'on a détérioré. Mais ça peut se faire, moi, je trouve. Dans l'art, il y a des gens qui témoignent d'horreur et ils emploient des moyens horribles pour témoigner de l'horreur. Je comprends très bien tout ça. Mais moi, je préfère quelque chose de plus édifiant, c'est-à-dire célébrer la nature dans ce qu'elle a d'extraordinaire. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une célébration de j'allais dire, la beauté. La beauté est un sentiment, mais de la cohérence de la nature. Oui. Séquelles.
Je laboure des séquelles. Je vis au cœur de mes déchets. Pour avoir répondu aux suppliques des hommes, je partage leur sort. Je partage le tort de les avoir aimés. Par ma faute, la terre, la mer, le ciel, l'univers entier s'encrasse et se mutile. Or les hommes sont là qui me pressent d'agir. Les hommes intrépides qui convoitent les astres. Il me somme aujourd'hui de les conduire plus loin, plus haut, toujours plus haut, vers cet ailleurs inconcevable où s'abîment les cieux. Plus rien ne les anime que le goût du vertige. Un ordre virtuel, de mirage en mirage, occulte le réel. Les capsules et les sondes se disputent la gloire de leur nouveau trophée. Pendant qu'ici-bas, les robots en faillite encombrent le marché gigantesque des villes. L'espace n'a plus de bornes et la Terre n'a plus d'axe. Vertical, désormais, l'horizon n'a plus d'âme. L'amour n'a plus d'emploi. Les dieux se taisent. Alors, sans attendre l'aval de que notre titan, laissant aux intégristes les scories de leur mythe, j'en appelle au destin sublime qui les hante, l'exploration du vide. En dépit des trous noirs et des météorites qui dispersent les anges, je vais bâtir enfin ma propre sépulture, un labyrinthe sidéral, où je serai, comme les dieux, à tout jamais me taire. Et il se tait.
C'était un extrait de Dédale, un ouvrage de Maurice Chaudière. Il est également l'auteur d'un livre sur l'apiculture alternative. Les deux sont publiés par le Décaèdre. Voilà, vous savez que vous pouvez réécouter et même télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com, même site sur lequel vous retrouverez également nos émissions des deux mois précédents, et vous pourrez écouter notre revue de web hebdomadaire. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Mathieu Leroy, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.